ce soir, nous recevons Philippe Aide, qui est directeur général d'IBM France, qui est à ma droite, et Franck Debouc, à ma gauche, qui est secrétaire général d'Air France Consulting, pour une conférence intitulée « Le re-engineering, comment passer d'un domaine à l'autre ». Cette conférence donc s'inscrit dans le cycle de conférences sur ce thème des métiers de l'ingénieur aujourd'hui, que nous vous proposons jusqu'au 19 janvier inclus, avec une interruption vendredi 15 janvier, il n'y aura pas de conférence. Un mot très rapide sur les modes de diffusion de l'UTLS. Donc sur le petit programme qui est disponible à l'accueil, vous avez sur la quatrième la quatrième page tous les modes de diffusion, donc que ce soit internet ou radiophonique. D'ailleurs, à la radio sur France Culture, dans le cadre de l'émission L'éloge du savoir, le matin entre 6h et 7h du matin, vous pourrez retrouver cette série de conférences qui sera diffusée, mais pas avant le mois de juin 2010, hein, puisqu'en ce moment sont diffusées les jeudis et vendredis la série de conférences sur la croissance verte qui avait eu lieu ici même en juin dernier. Donc sur internet, comme je vous le disais, vous pouvez les retrouver en direct et en différé, et y compris les documents des conférenciers lorsqu'il y en a, et les textes lorsqu'il y en a aussi, nous les mettons en ligne. Donc je vais maintenant vous présenter nos deux intervenants. Philippe Aide, qui est directeur général d'IBM France. Il est né en 1958. Concernant son parcours, il est ingénieur de l'École spéciale des travaux publics et diplômé de l'Institut supérieur des affaires. Il a donc une bonne partie de sa carrière qui a été effectuée à IBM France, où il est rentré en 1988 comme ingénieur commercial au secteur banque. Il a occupé plusieurs postes, notamment aussi de 2003 à 2007, directeur général Europe du secteur industrie, directeur général d'IBM France, chargé de la division Business Consulting Service, et depuis 2009, il est directeur donc général d'IBM France. Vous pouvez retrouver évidemment le détail plus complet sur Internet concernant sa biographie. Un mot aussi sur le parcours de Franck Debouc, qui est ingénieur. Donc, il est ingénieur de l'École centrale de Lyon en 1978. En 1979, préparation d'un DEA de gestion à Paris Dauphine. De 79 à 84, il a travaillé à la Caisse des dépôts et consignations. Depuis 85, il est chargé de cours à Paris 7, chargé de conférences également au DESS Transports Aériens et responsable de stage de fin d'études de grandes écoles, écoles de commerce et d'ingénieurs. De 88 à 94, il a occupé donc un poste à la direction technique des opérations aériennes. Il a été responsable du bureau d'études chez Air France. Et à compter de mi-1999, il est donc secrétaire général d'Air France Consulting. Je vais donc maintenant leur céder la parole, d'abord à Franck Debouc, et ensuite à Philippe Aide. Et après, vous pourrez évidemment leur poser toutes les questions que vous voulez. Merci beaucoup. Donc ça, je vous laisse. Merci.
Je me sens mieux comme ça. Voilà, merci. Eh bien, bonsoir à tous et merci pour votre présence. Merci à Yves Michaud qui nous permet ce soir de vous faire partage de nos métiers et de nos enthousiasmes. Merci également à Pierre Lost qui nous a permis de construire ensemble avec Philippe Aide, directeur général d'IBM France, cette conférence que nous avons voulu à deux voix. Notre sujet s'intitule « Le re-engineering et le comment passer d'un domaine à l'autre ». L'ingénieur, qui est le thème central de ce cycle de l'Université Tous les Savoirs, se doit d'être rigoureux, être porteur d'un savoir-faire technique et être apporteur de solutions. Mais il doit aussi être force de proposition, savoir sortir du cadre et contribuer par son regard et son travail à la formidable aventure de l'innovation. Et c'est ce que nous allons essayer de vous présenter ce soir. Le re-engineering, terme anglo-saxon, est une démarche scientifique ou de management. Management, autre terme, non pas anglo-saxon, mais bien d'origine latine, qui consiste à revoir totalement le mode de fonctionnement d'une entreprise et de ses processus. Et l'innovation est très souvent au rendez-vous du re-engineering. Nous interrogerons ce soir à l'apport de la technologie
et de pratiques éprouvées qui, lorsqu'elles sont confrontées à de nouveaux domaines, permettent certains bons spectaculaires. En effet, les possibilités innombrables offertes par le traitement de l'information ouvrent régulièrement de nouvelles portes à l'imagination, et je laisserai Philippe vous exposer les dernières avancées dans ces transferts. Quant aux pratiques éprouvées, j'aimerais vous faire part de mon expérience qui me permet, à partir de pratiques issues du monde du transport aérien, de travailler avec le monde médical, le secteur de l'énergie nucléaire et ses experts facteurs humains, le club alpin français ou encore les ingénieurs de France Télécom. Car il s'agit là de croiser les expériences et les parcours. Et là aussi, l'innovation est au rendez-vous. Alors pourquoi vouloir transférer ce qui se fait ici, là-bas? Tout simplement parce que le découpage en domaines d'activité ne veut pas dire cloisonnement étanche. Certes, la pêche ou la cimenterie n'ont a priori pas grand-chose à voir avec l'industrie pharmaceutique ou le génie électrique. Mais à bien y regarder, il y a de nombreux points communs. Car si l'expertise développée dans chacun de ces domaines n'est pas la même, le savoir-faire d'un médecin ne sera jamais le savoir d'un conducteur de travaux ou d'un logisticien. Là n'est pas l'analogie. Mais dans tous ces domaines, il y a des femmes et des hommes, issus des mêmes mamans et des mêmes papas, qui vont tous être confrontés aux mêmes logiques de processus, qui permet de transformer des données d'entrée en données de sortie, aux problématiques clients-fournisseurs, aux besoins de traitement et de stockage de l'information, à la pression économique et à la concurrence, au respect de délais et à l'impérieuse nécessité de travailler avec d'autres hommes, d'autres organisations et aujourd'hui plus encore avec d'autres cultures. Les difficultés sont les mêmes, les solutions, même si elles ne se ressemblent pas, peuvent se nourrir les unes avec les autres. Bénéficier de l'expérience d'un tiers, même s'il n'est pas issu du sérail, peut permettre un gain de temps considérable et peut aussi éviter de faire les mêmes erreurs, l'accélération est rendue possible. Et l'imagination est nécessaire à la poursuite de notre parcours d'humain. Car comment allons-nous continuer à vivre ensemble et en bonne santé, toujours plus nombreux, sur une planète aux ressources limitées, et laisser à nos enfants l'héritage de nos parents? Nous devons être créatifs, savoir sortir des schémas connus, et le savoir regarder et le savoir écouter sont deux atouts permettant de revisiter nos certitudes. Ce qui marche chez toi doit pouvoir aussi marcher chez moi. Je ne sais pas, je pose la question, j'interroge. Je sais, alors je partage et je contribue à la réponse. Et la jeune génération Internet est bien dans cette formidable logique créatrice et de partage. La synergie est source de création. Et je vais laisser la parole à Philippe pour qu'il nous expose de ce qui a changé dans le processus de l'innovation.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci à Franck pour cette introduction du sujet. Et on va essayer dans les minutes qui viennent de parcourir un certain nombre d'éléments concernant l'innovation. Alors comme j'ai été présenté comme quelqu'un qui travaille chez IBM, on peut se demander qu'est-ce que vient faire IBM dans cette aventure. IBM est connue pour être la première société informatique dans le monde, peut-être aussi la plus ancienne, puisque dans 2 ans nous allons fêter nos 100 ans et capables d'avoir traversé les transformations technologiques innombrables qui ont eu lieu depuis 100 ans. Mais nous sommes peut-être un peu moins connus comme étant la première société dans le monde pour le dépôt de ses brevets. C'est vrai depuis 16 ans, c'était vrai jusqu'en 2008, et je peux vous annoncer ce soir, puisque les chiffres sont tout secs, qu'en 2009, à nouveau, nous aurons été la société qui, dans le monde, aura déposé le plus de brevets. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ces brevets sont de plus en plus développés en commun avec nos clients, et je vais revenir sur ce sujet-là dans la présentation qui suit. Alors, je vais faire référence tout au long de cette présentation commune avec Franck à une étude qu'IBM a fait il y a 2 ans, 3 ans maintenant auprès de 1500 grands dirigeants d'entreprises à travers le monde sur l'innovation. Et l'innovation étant bien entendu quelque chose de très, de beaucoup plus grand que ce qui peut être l'invention. L'invention est issue de la recherche fondamentale. L'innovation, c'est la capacité à mettre des moyens, des hommes, des idées, des solutions au profit d'un usage qui est un usage nouveau. Si je devais rapidement faire un voyage, l'approche historique de l'innovation, c'était quelque chose qui était essentiellement d'abord focalisé sur les produits nouveaux, sur les services. Fondamentalement, elle était interne à l'entreprise et la recherche et développement de l'entreprise jouait un rôle central. Et au fond, c'était quelque chose qui était tourné, qui tournait à l'intérieur des organisations ou à l'intérieur des entreprises. Ce que cette étude a démontré, c'est que, au fond, il y a une nouvelle approche de l'innovation. La première chose, c'est que, bien entendu, il y a toujours de l'innovation dans les produits. Exemple, la téléphonie mobile, pour prendre un exemple qui parle. Bien entendu, il y a toujours de l'innovation dans les services. Clairement, pour prendre un exemple grand public, la banque par Internet est un service nouveau offert par les banques pour leurs clients. Mais il y a de plus en plus d'innovations qui proviennent d'innovations dans le domaine des pratiques, et on en parlera tout à l'heure en détail avec Franck, ou dans les business models. Et je veux prendre comme exemple quelque chose qui me paraît assez parlant et assez spectaculaire dans le domaine des business models, c'est comment finalement la publicité urbaine joue un rôle dans la transformation du mode de déplacement dans nos villes. Le Vélib, qui existe en France dans beaucoup de villes, Marseille, Paris, Lyon, Caen ou ailleurs, est un très bon exemple de la transformation de la mobilité urbaine et au fond, qui est payé par la publicité urbaine. Et donc c'est un bon exemple de transformation au travers d'un business model nouveau. Alors cette étude, pour continuer à la présenter, a démontré que, bien entendu, les sources d'innovation sont à la fois internes et à la fois externes aux organisations, aux entreprises. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle a démontré que les dirigeants d'entreprise vont puiser les sources d'innovation non pas tellement en interne au niveau de leur recherche et développement, non pas au niveau externe en milieu universitaire, pour être schématique, mais que cette innovation provient avant tout de la collaboration, soit en externe avec les fournisseurs ou avec les clients, soit en interne avec l'ensemble des collaborateurs. Et au fond, ce qui apporte ces innovations nouvelles, c'est la capacité de travailler en interne et en externe avec l'ensemble des acteurs, des organisations ou des marchés. Et puisqu'on en parle beaucoup aujourd'hui de la voiture électrique, qui sera certainement amenée à inonder le marché de l'automobile d'ici quelques années, il sera intéressant de regarder d'où vient, quelles sont les origines des innovations qui ont permis finalement de passer de la voiture à combustion à la voiture électrique, et on se rendra compte que c'est un énorme partenariat entre les différents acteurs qui auront permis à la voiture électrique d'être non pas quelque chose qui a été une invention, mais quelque chose qui sera une innovation dans les usages et utilisé de manière extrêmement importante. Nous-mêmes, par exemple, nous travaillons aujourd'hui sur les infrastructures qui permettront effectivement de faire circuler les voitures électriques, puisque si on parle voiture électrique, il ne s'agit pas simplement de faire une voiture, mais il faut aussi faire une voiture qui soit capable de fonctionner, de se recharger, quel que soit l'endroit dans lequel elle évolue. Et ce que cette étude sur l'innovation a démontré, de manière très intéressante, c'est que les entreprises qui avaient la plus grosse croissance étaient les entreprises qui faisaient le plus appel à de l'innovation externe, et que les entreprises qui étaient à plus faible croissance étaient des entreprises qui étaient plutôt, en termes d'innovation, tournées sur elles-mêmes. Le dernier point, et en termes d'introduction de notre conférence, c'est que cette étude a démontré que la technologie, au sens IT du terme, au sens informatique du terme, jouait un rôle moteur dans l'innovation. Si vous regardez les innovations quelle qu'elle soit, vous vous rendrez compte que, alors on peut prendre des poids, 60, 70%, 80%, mais qu'une grosse partie de ces innovations sont sous-tendues par, sous-tendues par l'IT. Si on prend en opposition, si vous voulez, un avion nouveau, la Caravelle, il y a 40 ans, ou l'Airbus 380, eh bien, dans l'Airbus 380, qui a coûté une dizaine de milliards de développement, d'euros de développement, c'est plus de 2 milliards et demi d'informatique qui ont décollé le jour où le premier 380 a décollé. C'est certainement pas le cas, bien entendu, de la Caravelle quand elle est sortie des ateliers de Toulouse. Alors, le monde dans lequel on est un monde qui est de plus en plus qui interconnecté, et c'est pour ça que la technologie joue un rôle très important. Le monde dans lequel on est un monde qui est extraordinairement équipé en termes de systèmes d'information, qui est extrêmement interconnecté et qui est de plus en plus intelligent. Juste quelques chiffres pour simplement frapper les esprits. Il y a aujourd'hui 1 milliard de transistors qui fonctionnent dans le monde par être humain. Donc je vous laisse faire le calcul, 1 milliard de transistors par être humain. Il y a aujourd'hui 30 milliards d'étiquettes RFID qui permettent de repérer un produit qui circule dans le monde. Donc il y a fondamentalement des choses absolument extraordinaires en termes de chiffres, et quand vous comparez ça à une situation il y a 10 ans, pas il y a 50 ans, il y a 10 ans, vous voyez bien qu'il y a une évolution qui est considérable. Aujourd'hui, un tiers de la population est connectée sur Internet. Bien entendu, dans quelques années, ce sera 2/3. Et donc, vous voyez bien que les échanges d'informations sont fondamentales, très importantes, et vont jouer un rôle qui sera de plus en plus important. Alors, pour illustrer cette notion de transfert, finalement, de la technologie, donc du domaine IT, vers d'autres domaines, nous avons pris avec Franck un certain nombre d'exemples. Et les exemples que j'ai pris sont des exemples dans lesquels nous avons des transferts du domaine IT vers d'autres secteurs d'activité, quand Franck prendra des exemples de transferts de pratiques. Premier exemple, un exemple dans le domaine du transport automobile. Le transport automobile, c'est quelque chose d'assez classique. Et aujourd'hui, la technologie joue un rôle de plus en plus important pour fluidifier le transport automobile, en particulier dans le domaine urbain. Il existait des systèmes vidéo qui contrôlaient la circulation automobile, mais qui ne pouvaient pas agir sur la circulation automobile, en particulier des centres de ville. Eh bien aujourd'hui, l'association de systèmes vidéo installés dans nos villes, avec la capacité de mettre des transpondeurs sur les automobiles et la reconnaissance des plaques minéralogiques, permettent de mettre des systèmes qui fluidifient la circulation. Nous avons l'exemple de Londres, nous avons l'exemple de Stockholm, dans lequel la mise bout à bout de ce type de technologie en des solutions qui sont des solutions simples ont permis de réduire le trafic automobile de plus de 20%. Comment ? Par la mise en place de péages urbains qui initialisent des comportements différents des automobilistes et qui permettent de faire passer du transport automobile individuel vers du transport en commun par un système de péage. Et ça, ce sont des systèmes qui n'existaient pas il y a quelques années et qui sont en train de se développer de manière très importante. Un système qui aujourd'hui dans un cœur de ville peut vous réduire de 20% la partie de trafic est quelque chose de très important, bien évidemment. Un deuxième exemple dans le domaine de grand public, c'est dans la distribution électrique. Aujourd'hui, l'énergie est quelque chose qui coûte cher. Elle coûte cher à produire. Elle coûte cher à produire en particulier au moment des pics. Nous sommes en ce moment en plein hiver et on voit les effets du froid, mais bien entendu, marginalement, il est clair que les pics sont les parties les plus coûteuses à couvrir. Eh bien, aujourd'hui, on assiste à la mise en place de gestion de réseaux qui sont intelligents, en mettant des compteurs intelligents chez monsieur et madame tout le monde, chez l'usager, chez le consommateur électrique, qui permettent soit à l'usager final, soit au distributeur, de délester momentanément et de manière intelligente la consommation électrique. Nous avons aujourd'hui, avec EDF, pour parler en France, un premier programme dont les premiers tests sont faits en Bretagne depuis le 1er décembre, dans lequel nous avons installé des compteurs intelligents qui permettent aux consommateurs d'EDF de décider à certains moments de couper sa consommation électrique, ou à EDF d'intervenir sur contrat, d'intervenir directement chez l'usager en cas de pointe. Et vous savez que la Bretagne est une région française qui est une région qui souffre de problèmes justement de pics d'alimentation électrique, et donc qui permettent d'intervenir directement chez l'usager. Ces exemples qui sont donnés dans le domaine de la gestion des réseaux électriques sont des exemples qui sont vivants aujourd'hui. D'autres exemples existent de la même façon, en particulier dans les pays où les problèmes d'eau sont des problèmes cruciaux, les pays du bassin méditerranéen. Nous avons également ce même type d'activité sur des compteurs intelligents dans le domaine de l'eau. Le troisième exemple que nous souhaitions prendre était un exemple tout à fait différent, qui est un exemple autour des aspects de santé. La technologie est aujourd'hui utilisée de manière extrêmement importante autour du séquençage du génome. Pourquoi ? Parce que l'analyse et la compréhension des aspects génétiques, de la séquence génétique, permet de comprendre les comportements et les comportements humains. Et aujourd'hui, la compréhension biologique d'un côté, la compréhension des aspects génétiques de l'autre, permettent d'imaginer, de faire des traitements non plus sur des comportements thérapeutiques classiques, mais de pouvoir faire mettre des solutions thérapeutiques en fonction de l'individu lui-même et de sa composition génétique. Et aujourd'hui, les laboratoires pharmaceutiques travaillent sur ce sujet-là de manière extrêmement approfondie pour pouvoir, par exemple, dans le domaine de la cancérologie, non plus faire des thérapies qui sont des thérapies en fonction de la maladie que l'on a, mais en fonction de la maladie et en fonction du séquençage génétique de chacun d'entre nous. Et il y a une corrélation importante pour pouvoir faire des solutions, pour pouvoir appliquer des solutions thérapeutiques extrêmement précises. Il est clair que quand on commence à travailler sur des aspects génétiques, on travaille sur des données qui sont extrêmement importantes. Et les capacités de calcul doivent être multipliées de manière tout à fait significative. Et la capacité de traiter, donc la capacité d'avoir des algorithmes mathématiques qui permettent de traiter ces données, est fondamentale. Et donc vous avez là, de manière assez intéressante, finalement la rencontre de deux domaines, le domaine du calcul de très haute densité d'un côté, avec des algorithmes mathématiques extrêmement complexes, et l'autre le domaine de la biologie. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant pour prendre l'exemple dont on parlait tout à l'heure d'ouverture, c'est que les grands laboratoires pharmaceutiques ont bien compris qu'elles ont besoin de s'associer à des gens qui sont des grands spécialistes du domaine des calculs ou des domaines des méthodes de calcul pour pouvoir avoir accès à des systèmes de recherche complémentaires de leur système de recherche précédent. Et si vous regardez ce qui se passe dans le domaine aujourd'hui de l'industrie pharmaceutique, vous verrez que les grands laboratoires pharmaceutiques sont en train d'ouvrir leurs recherches de manière très importante pour pouvoir capter l'innovation qui vient en particulier du domaine du calcul et du calcul numérique. Et derrière ça, il y a évidemment la création de biobanques, puisque le séquençage génétique nécessite la mise en place de données très très significatives, très importantes, auxquelles l'ensemble des laboratoires veulent avoir accès. Donc là, on a donné trois exemples dans lesquels vous avez des associations d'un côté de domaine de systèmes d'information, de l'autre de domaines traditionnels, de secteurs. On a pris le secteur de la santé ou de la distribution électrique, et vous voyez comment la mise en perspective et la mise en commun de ces moyens permet de créer des innovations nouvelles pour des solutions nouvelles. Franck va prendre maintenant des exemples de pratiques, de transfert de pratiques de domaines à d'autres domaines.
Merci Philippe. Oui, les trois exemples que je vais prendre sont des exemples plus faciles, peut-être plus abordables que les exemples extraordinaires des outils des découvertes apportées par les systèmes d'information. S'enrichir des bonnes pratiques développées pour un domaine, c'est aussi une bonne voie de progrès. Je prendrai trois exemples. On va prendre le premier qui est d'actualité aujourd'hui, qui est la mise en œuvre de la checklist. Et dans la checklist, transporter en avion des clients, c'est pas une chose tout à fait naturelle. Transporter plusieurs centaines, je parlais que la 380, on va être à plusieurs centaines de passagers dans une boîte métallique à 10 km d'altitude et 1000 km heure, c'est absolument pas une chose naturelle. Et on veut le faire en garantissant toute la sécurité attendue par nos clients. Alors, on ne veut pas, vous ne voulez pas d'accident. Alors on a développé depuis 1940, je crois qu'il y a une grande rupture au moment des années 40, on a développé un retour d'expérience très structuré au niveau des compagnies aériennes. On a beaucoup appris. Chaque accident, chaque incident, chaque événement précurseur, tous les événements porteurs de risques sont analysés, disséqués, et on va en rechercher les facteurs contributifs et on corrige en permanence l'organisation, les méthodes, la formation, les procédures, la technique, un aller-retour permanent. Il n'y a que quatre facteurs contributifs quand vous analysez un accident, quelle que soit l'origine, soit centrale nucléaire, accident d'avion, accident chimique, accident d'un pétrolier. Vous allez retrouver des facteurs techniques, des facteurs organisationnels, des facteurs humains, des facteurs environnementaux. On va régler assez vite, les ingénieurs ont réglé assez vite les facteurs techniques, On ne perd plus d'ailes en plein vol. On va régler les problèmes d'organisation. Aujourd'hui, plus personne dans la salle, l'organisation n'oublie sa carte bleue au distributeur. Parce que si on veut l'argent, il faut d'abord retirer sa carte bleue, on a l'argent après. Donc avant, on faisait l'inverse et on oubliait la carte bleue. Et je ne connais pas beaucoup de gens qui oublient l'argent. Donc c'est un problème d'organisation et l'organisation, on va pouvoir trouver des solutions. Et aujourd'hui, on se heurte au problème du facteur humain. Aujourd'hui, dans 80% des accidents d'avion, le facteur humain est la cause primaire de l'accident d'avion. Alors, une fois qu'on a compris que le facteur humain est un facteur primaire, l'homme est irremplaçable pour la conduite de nos machines, il va falloir accepter les modes de défaillance de l'homme. On va pouvoir multiplier la formation, mais il y aura toujours des erreurs humaines. Et la mise en œuvre de bonnes pratiques sécurité, ce que nous appelons les BPS chez nous, appliquées par l'homme, permettent de corriger et de compléter le travail humain. Pour récupérer un oubli, toujours possible, la checklist est un outil qui a fait ses preuves en aviation. Tout commandant de bord, toute compagnie confondue, utilise une checklist juste avant une action irréversible et pouvant avoir un impact sur la sécurité du vol. Comme par exemple, juste avant un décollage. Quand on décolle, on ne pourra pas revenir en arrière. Une dernière vérification ultime, la checklist est une vérification, ce n'est pas une do list, permet de vérifier les trois points essentiels, voler, trim, frein, que c'est effectivement bien mis en place avant de mettre la pleine puissance des réacteurs. Et cette technique de checklist, qui se joue à deux, entre le commandant de bord et le pilote, est utilisée avec efficacité dans le monde entier depuis 1970. Et c'est cette pratique... Et c'est cette bonne pratique de la checklist qui fait son entrée au bloc opératoire depuis ce 1er janvier 2010. Pratique qui est promue par la Haute Autorité de Santé et également par l'OMS. Et cette pratique est censée diviser par deux le nombre d'incidents qualifiés de potentiellement graves au sein des blocs opératoires. Plus de 34 000 incidents graves actuellement, potentiellement graves, ont été recensés dans les blocs opératoires. C'est bien l'expérience acquise par le transport aérien qui a été mise à contribution pour accompagner la conception et la mise en œuvre des checklists. Une checklist sera donc mise en place actuellement aux trois moments critiques irréversibles, juste avant d'endormir le patient, juste avant d'inciser et juste avant de quitter la salle. Et d'ici quelques mois, nous devrions pouvoir mesurer les résultats obtenus et se poser cette fois-ci la question pour l'aviation de ce que l'on a appris de cette transposition. Le monde médical au service de l'aérien. Un autre exemple de cette pratique éprouvée, tout aussi passionnant, c'est la technique du zoom et de mise à disposition de ce zoom au grand public. Je veux parler de Google Earth.
Cet incroyable outil qui nous permet confortablement assis de regarder la Terre, de zoomer sur l'Europe, sur la France, sur Paris, puis sur la Tour Eiffel. Chacun peut retrouver ses lieux favoris, découvrir son futur lieu de vacances, identifier un chemin, repérer des vestiges ignorés, et demain peut-être de retrouver ses clés égarées. Eh bien, cet outil peut être utilisé pour beaucoup d'autres objets. Les fonds marins, en cours de développement, la Lune, où l'on peut repérer les premiers pas de l'homme qui sont toujours visibles, et depuis janvier 2009, les magnifiques tableaux du musée du Prado à Madrid. Détaillez des Velázquez, Rembrandt, Goya, profitez de l'incroyable travail de ces grands maîtres. Sur cet exemple, la descente de la croix du peintre flamand de la Renaissance, Roger van der Weyden, plus de 14 millions de pixels et d'incroyables détails sont rendus visibles, comme ses larmes. Admirer depuis chez soi les plus belles œuvres de nos musées devient possible. Demain, nous pourrons tourner autour des statues, sélectionner nos propres œuvres et construire nos propres musées virtuels. Imaginons cette technique mise à disposition de Zoom pour le corps humain, la flore, les bactéries, l'espace, les résultats des expériences de nos laboratoires et pourquoi pas nos top modèles. Mettre à disposition ces banques de données, c'est aussi donner à chacun la possibilité de poser un regard selon l'angle voulu et les découvertes par l'observation vont se multiplier. Le dernier exemple, peut-être un peu moins spectaculaire, mais tout aussi riche de résultats, concerne le yield management. Yield, mot bien anglo-saxon cette fois-ci. Le yield désigne les techniques d'optimisation pour la recette obtenue sur nos avions. De manière triviale, le yield, c'est la technique du comment vendre au mieux chaque siège de notre réseau pour optimiser la recette globale du réseau. Avec un effet surprenant, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne paye le même prix pour un trajet et tout le monde est convaincu d'avoir fait une bonne affaire. Cet outil, développé par le MIT, a permis de poursuivre notre développement et de permettre au plus grand nombre d'accéder au transport aérien tout en sachant choisir sa destination et sa meilleure date de voyage. Eh bien, France Télécom s'est intéressé dès 1995 à notre propre expérience de la mise en œuvre de cet outil pour le revisiter complètement et l'adapter pour optimiser non pas la recette, mais optimiser l'achat de capacités sur le réseau mondial en fonction des heures et des tarifs négociés. Ce sont les mêmes techniques, les mêmes outils, complètement revisités, qui permettent non pas d'optimiser la recette, mais de diminuer l'achat. Ces quelques exemples montrent bien la richesse possible de ces transferts et la nécessaire collaboration pour y arriver. Et je vais redonner le micro à Philippe pour vous exposer les conditions de la réussite.
Alors, c'est l'étude à laquelle je faisais référence, pour prendre la suite de Franck, a montré que la collaboration pour l'innovation était absolument fondamentale. Elle est vitale. Et on a essayé de prendre deux exemples pour montrer comment les choses évoluent pour justement mettre en œuvre cette collaboration. Le premier exemple que je vais prendre, c'est la manière dont IBM a fait évoluer sa structure de recherche et développement au fur et à mesure des ans. Dans les années 70, la recherche et développement définissait elle-même ses priorités. Elle avait ses propres ressources qui étaient financées suivant un système de budget et au fond, elle tournait en autonome. Dans les années qui ont suivi, cette recherche et développement s'est mise à travailler avec les équipes internes de l'entreprise, avec le marketing, avec le commercial. Mais au fond, elle ne tournait toujours qu'avec des forces internes à l'organisation. Avec la transformation majeure qu'IBM a connue dans les débuts des années 90, en réaction du fait qu'elle a failli disparaître, comme vous le savez, en 91-92, suite à une crise très très importante, le nouveau chairman, Lou Gerstner, a exigé que la recherche et développement s'ouvre aux problématiques clients. Et donc, ça a été le point de départ, en 94, d'une recherche et développement qui travaille en partenariat avec nos propres clients. Et depuis les années 2000, plus de 50% des projets de recherche et développement qui sont exécutés le sont en partenariat avec des clients et des partenaires et avec les pôles universitaires. Et donc on est dans une réalité d'une recherche et développement à la demande qui est tournée sur la problématique des usages des industries. Donc vous voyez une transformation très importante d'une recherche-développement initialement tournée sur elle-même vers une recherche-développement au service du développement des usages des secteurs industriels. Le deuxième exemple que je voudrais prendre est probablement encore plus spectaculaire, c'est la manière dont on travaille aujourd'hui pour mettre en place cette collaboration. Nous travaillons de manière régulière aujourd'hui avec un produit qu'on appelle, ou une méthode qu'on appelle le JAM, et qui est en fait un formidable forum internet qui est ouvert pendant 72 heures. Alors on l'a tourné chez nous à plusieurs reprises, mais on l'a tourné aussi chez Nokia, chez Eli Lilly par exemple, ou en ce moment à l'OTAN. Et au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est un forum internet ouvert pendant un nombre de jours tout à fait limité, et qui, dans le cas présent sur l'innovation pour IBM, a été ouvert à l'ensemble des collaborateurs, des 400 000 collaborateurs dans le monde, mais nous l'avons ouvert aussi à l'ensemble des familles des collaborateurs, à l'ensemble de nos clients et de nos partenaires, et de même à un certain nombre d'universités. Et on a, sur ce forum, posé des questions sur dans quel segment IBM doit, dans le futur, investir. Et grâce à des outils d'analyse sémantique tout à fait poussés, parce que vous imaginez que la contribution de plus de 150 000 personnes dans différentes langues nécessite bien entendu des outils sémantiques assez élaborés pour arriver à faire des recoupements et à faire des groupes et puis des sous-groupes, on a travaillé sur plus de 46 000 idées, et au bout de ces 46 000 idées, nous avons mis en place 10 idées innovantes de secteur dans lequel, à partir de 2009, nous avons commencé à travailler. Et toute la stratégie d'IBM aujourd'hui, que vous avez certainement au travers de la télévision ou de la presse remarqué, pour une planète plus intelligente, est issue de ce formidable forum internet qui, encore une fois, peut être utilisé pour différentes problématiques dans différentes entreprises. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, l'outil informatique est un véritable outil de collaboration qui permet effectivement de mettre en commun les idées, et ce, quel que soit l'endroit de la planète où on est situé. Et donc, à l'issue de cette conférence, qu'on a voulu justement collaboratif, Franck et moi, avec deux visions totalement différentes, même si on est tous les deux issus de domaines industriels, peut-être plus de services et moi plus industriel, on a voulu se poser la question de quelles implications cela avait pour les organisations et puis au fond pour les ingénieurs. Alors je vais laisser Franck introduire l'aspect d'impact pour les organisations.
Oui, on vient de voir donc ce potentiel extraordinaire de rapprochement, de regarder, de porter des regards différents, de savoir écouter. Mais l'organisation doit s'adapter. Et je pense un certain nombre de choses importantes qu'il va falloir que les organisations prennent en compte au cours des années qui sont en train de venir. Il va falloir continuer d'abord ce que disait très bien Philippe, les départements de recherche et développement partout dans l'entreprise. La recherche et développement, c'est pas un problème de spécialistes, de bureaux de R&D. Il faut rapprocher les financiers, les gens du marketing, les vendeurs, les techniciens. Une idée, ce n'est pas réservé à quelques élus. Il va falloir également que les organisations favorisent l'innovation par l'intégration des métiers et des technologies. La technologie doit être vue comme un catalyseur de l'innovation. Il va falloir aussi poursuivre tous les efforts de collaboration par-delà les frontières géographiques et sectorielles. C'est-à-dire ouvrir les centres de recherche vers l'extérieur, les clients, les partenaires, les universités, les écoles, les centres de recherche publics, voire même, pourquoi pas, nos concurrents
dans certains secteurs comme la sécurité. Développer des stratégies de recherche raisonnées en déterminant ce qui doit être fait en interne et ce qui peut être produit par l'externe. Un peu de bon sens. Il faut aussi savoir s'inspirer des bonnes pratiques des autres, tout en intégrant les femmes et les hommes du secteur d'activité. En aucun cas, le copier-coller ne peut se faire sans eux. Il va falloir développer et continuer à développer des plateformes collaboratives, tout en préservant certaines données confidentielles ou jugées critiques. Et assurer partout, où cela est possible, la mise en place de boucles de retour, le partage sans complexe du « ce que j'ai appris ». Nos organisations doivent favoriser l'innovation, mais nos organisations ne sont rien sans les hommes, qui sont chargés de faire vivre ces organisations. Et je vais laisser Philippe conclure sur ce que cela veut dire pour nos ingénieurs.
Le thème de la conférence, c'était, ou du cycle de conférences, c'est « Ingénieur aujourd'hui, l'ingénieur, le génie et la machine ». Et au fond, on a cherché à réfléchir ce que ça voulait dire pour l'ingénieur d'aujourd'hui, mais surtout pour demain. Il est clair que cet ingénieur doit avoir une vraie capacité, une vraie culture scientifique pour favoriser cette fertilisation croisée dont nous avons parlé. L'ingénieur doit avoir une vraie ouverture sur le monde qui l'entoure, donc bien entendu la capacité à travailler dans le monde entier sur des sujets divers, soit par la technologie, soit en se rendant dans les différents endroits où il se passe quelque chose. L'ingénieur d'aujourd'hui et de demain est forcément un homme ou une femme qui est ouvert sur le monde qui l'entoure. Une vraie capacité à collaborer qui ne peut pas se limiter à la problématique des langues, c'est aussi culturel. Faire travailler des équipes ensemble, avec des outils à distance ou dans une salle, nécessite une vraie capacité pour ces ingénieurs à savoir travailler ensemble. Et bien entendu, un esprit d'entrepreneur, puisque vous avez compris que notre conviction, c'est que l'innovation n'est issue que de la collaboration. L'innovation tire la croissance si l'innovation ne viendra que par un vrai esprit entrepreneurial. Alors pour le mot de la fin et de conclusion, en tous les cas avant les questions, on voudrait laisser un énorme espoir, bien entendu, pour le métier d'ingénieur. Il est clair que l'innovation ne peut pas être laissée sur la côte ouest des États-Unis. L'innovation ne peut pas rester uniquement sur le continent indien ou en Chine. L'innovation doit être issue aussi de chez nous. Et donc, c'est un formidable espoir pour le métier d'ingénieur de demain. Parfois, on se pose la question. Bien entendu, on a besoin de gens qui ont la tête bien faite. On a besoin de gens qui soient des commerciaux ou qui soient des gens de sciences politiques ou d'ailleurs. Mais le métier de l'ingénieur restera au cœur, quelque part, des innovations. Et donc, c'est un formidable espoir pour tous les gens qui, aujourd'hui ou demain, se destinent à ces métiers. Voilà ce qu'on voulait vous faire partager communément avec Franck ce soir. Et nous sommes prêts à répondre à vos questions en vous remerciant pour votre présence, soit sur Internet, soit dans cette salle de la rue des Saints-Pères ce soir. Merci.
Alors, on a une question en bas à droite.
Oui, bonsoir. Ma question s'adresse à Franck Debouc, ingénieur chez Air France. J'avais lu que, en fait, Robert Kennedy avait fixé comme objectif à l'aviation civile qu'il y ait zéro accident et zéro mort. Est-ce que ça fait partie de votre culture en tant qu'ingénieur? Est-ce que vous avez entendu ça dans vos études? Est-ce que parce que tout à l'heure vous avez dit on ne veut pas et vous ne voulez pas d'accident. En fait, c'est le promoteur. Enfin, au départ, ça avait été une condition fixée par le président des États-Unis pour le développement de l'aviation civile. Est-ce que vous le saviez ou pas?
Oui, c'est un. Je pense pas qu'on aura zéro mort. On tourne. L'histoire de l'aviation est intéressante. Aujourd'hui, on transporte plus de. Enfin, le secteur du transport aérien transporte plus de 2 milliards de passagers par an. 2 milliards, toutes compagnies confondues. On est assez fiers de nos résultats entre guillemets. Nous n'avons que 650 morts par an. J'étais responsable d'exploitation du Concorde, donc je connais bien le supersonique. On a eu nos 113 morts, on va dire 100 morts. 100 morts, c'est jugé inacceptable par la population, par la société. En France, on a 5000 morts sur les routes. Les derniers chiffres de 2009 montrent 4008, quelque chose comme ça. On va dire, même si vous êtes 4000, il y aurait 40 Concorde qui se crashent tous les ans sur les routes de France. L'analogie entre le transport aérien et les autres secteurs d'activité, le transport aérien est aujourd'hui le secteur aérien, sûrement le transport le plus sûr au monde, juste après l'ascenseur. Voilà. Oui, la recherche du zéro accident, bien sûr, c'est le quotidien. Dire que demain on n'aura pas d'accident, je me prononcerai pas. Le risque zéro n'existe pas. Hein. La recherche du zéro accident, oui. Affirmer que demain on n'aura pas d'accident, là je suis beaucoup plus prudent.
Monsieur.
Bonjour. Alors c'est déjà la deuxième conférence que je vois dans le cycle. Je vous remercie donc, mais j'espère que dans les prochaines il y aura un peu moins de lecture parce que ça finit par endormir à la fin. Cela dit, dans la lecture, j'ai trouvé quelques pépites et j'aurais aimé que vous développiez plus à ce niveau-là et en l'occurrence celle sur l'innovation jam m'a paru extrêmement intéressante et je voudrais savoir comment vous voyez dans des organisations qui sont pas IBM et qui n'ont pas forcément les moyens d'IBM la possibilité de mettre en œuvre cette démarche avec des outils plus simples, plus basiques dans les entreprises aujourd'hui, mais pas forcément de cette taille-là, et peut-être même dans les associations ou dans la vie de tous les jours des gens. Comment cette pensée, je dirais, itérative et qui fait que les vrais gens vous ramènent leurs idées et leurs informations peut s'appliquer aujourd'hui, d'après vous?
Alors, écoutez, d'abord, dans le JAM dont je vous parle, c'est forcément quelque chose d'important, puisque le but est de connecter des gens qui n'ont pas la capacité de travailler physiquement ensemble, par définition. Bien entendu, on peut faire des choses beaucoup plus simples dans des organisations plus petites, en réunissant les gens dans la même salle. Là, le but est de connecter des gens qui, physiquement, ne peuvent pas se déplacer et sont à différents endroits de la planète. Alors d'abord, ce type d'outil est maintenant assez commun et proposé par nous et éventuellement par d'autres à différentes entreprises. Pour ces grosses opérations qui sont assez lourdes, on propose, c'est vrai, les serveurs qui sont utilisés parallèlement, par exemple pour Roland-Garros, qui, vous savez, nécessite un Internet très très puissant pendant la période de Roland-Garros. Donc il n'y a aucun problème pour imaginer que ces choses-là, ces outils soient disponibles pour des entités qui seraient réparties dans le monde mais beaucoup plus petites. Il n'y a pas de problème particulier de disponibilité de systèmes ni quoi que ce soit, au contraire. Et bien entendu, on peut imaginer des systèmes qui à l'interne d'entreprise tournent sur des serveurs de l'entreprise en local avec des méthodes locales. Donc ce type de technologie n'a pas de limite ni vers le haut ni vers le bas.
Je voulais poser une question en ce qui concerne les horaires de transport. Par exemple, sur 10 pilotes d'avion ou sur des conducteurs de train, il y en a 2 qui vont arriver à respecter les horaires largement. Ensuite, il y en a 2 qui seront toujours en retard. Alors donc, on prend une espèce de moyenne où il y a des gens qui sont toujours mécontents parce que ça va arriver en retard. Et du fait qu'il y en a qui y arrivent, alors je pense qu'on faisait une enquête. Même dans les milieux professionnels, il y a des gens qui vont arriver toujours en retard au boulot et il y a des gens qui vont arriver toujours une heure en avance au boulot. Donc je pense, en faisant une enquête sur le plan humain, sur ce problème d'arriver en retard et des retards, et on pourrait comme arriver à quelque chose d'intéressant.
C'est pour toi, ça. Oui. Question intéressante.
C'est pour Franck, hein. J'ai cru que c'était pour lui. Hein.
On a démarré à l'heure, on va finir à l'heure. Ça, c'est une qualité. La ponctualité est le moteur des compagnies aériennes. Alors, c'est peut-être pas très bien, mais toute l'organisation des compagnies aériennes est faite autour de la ponctualité, et ce, depuis Mermoz. Hein, donc, le départ à l'heure et l'arrivée à l'heure, on peut pas trop la garantir. Hein, c'est fonction, bien sûr, des vents. Mais la ponctualité, il faut voir que c'est rendu de plus en plus complexe, y compris actuellement avec la sûreté, hein, les opérations qui ne dépendent pas de la compagnie aérienne. Il y a une vingtaine d'opérateurs qui concourent au départ de l'avion à l'heure, et si on accepte une ponctualité de 90% de chez chacun de ces secteurs, ben, il n'y aurait aucun avion qui partirait à l'heure. Donc on recherche le 100% de l'ensemble des acteurs qui contribuent au départ à l'heure. Hein, je vous prie de croire que la ponctualité est le grand moteur de toutes les compagnies aériennes au monde, hein, la recherche. Et nous travaillons actuellement dans des sujets de recherche et développement sur l'optimisation. Alors, c'est un sujet un petit peu complexe avec des target windows et des contrats d'objectifs pour une optimisation globale qui prendrait en compte à la fois les aéroports, les compagnies et le contrôle aérien de façon à garantir une arrivée à l'heure. Donc des concepts tout à fait nouveaux pour 2025.
Une question en haut.
Et bonsoir. Votre thème ce soir, c'est le re-engineering, le rapprochement des domaines à domaine. C'est bon. D'ailleurs, on dit deux têtes valent mieux qu'une. Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un risque de dilution, de gêne d'un domaine dans l'autre?
Vous pouvez préciser votre point parce que je suis...
Je disais que le re-engineering, c'est bon. Il suffisait d'avoir deux têtes pour mieux réfléchir. Mais est-ce que dans deux têtes, il n'y aura pas la dilution de gêne avec le fait de que l'un mettre la main sur l'autre et que l'autre disparaisse?
Nous, on part du principe, mais peut-être que c'est une philosophie, que 1 plus 1 fait 3. Donc, on veut pas faire disparaître une tête ni l'autre. Ce que l'on pense, et ce qu'on a essayé de démontrer ce soir, c'est que par rapport à des comportements qui sont des comportements dans lesquels on voudrait se protéger, pour des raisons de recherche, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de brevets, de choses comme ça. On pense que, certes, il faut protéger sa propriété intellectuelle, mais qu'il y a plus à gagner à essayer de travailler en commun avec des gens qui ont des choses complémentaires à échanger et de faire que 1 plus 1 égale 3. Ce que l'exemple que j'ai voulu montrer tout à l'heure dans le domaine de la santé... je l'ai vécu à plusieurs reprises, c'est que les directions de recherche se rendent compte qu'au fond, il y a des centaines de chercheurs qui travaillent pas du tout dans des sociétés de santé, pas du tout dans le life science, comme on le dit en anglais, mais qui travaillent sur des problématiques assez proches de ce à quoi ils ont à résoudre. Et au fond, c'est de se dire, comment, au lieu de payer 1000 chercheurs, je peux m'en payer 500 et aller trouver les 500 et mettre les moyens que je mettais sur 500 chercheurs à trouver les gens, les 10 000 chercheurs qui par ailleurs travaillent sur ces sujets-là. Et donc, pour résumer, je pense pas qu'il y a une tête qui doit disparaître par rapport à l'autre, c'est d'essayer de faire qu'un plus un égale 3.
Monsieur.
Merci. Bon, j'ai... beaucoup de respect pour Iber. C'est une société qui a assuré un apport à la planète absolument exceptionnel. Je n'avais pas envie de prendre la parole. Seulement quand j'entends 1 plus 1 égale 3, je suis désolé de vous dire que je suis révolté. Parce que c'est absurde. Il y a une démonstration faite par un professeur sur Internet de 1 plus 1 égale 3. Ce soi-disant professeur s'est permis de diviser par A moins B avec A égale 1, B égale 1, c'est-à-dire divisé par 0. Je suis désolé, j'ai été à l'école élémentaire et je crois que c'est très grave.
de dire ça quand il s'agit d'Uber et de l'UTLS. Ce qu'on dit ici, je considère que c'est extrêmement important. Je viens d'un pays sous-développé où l'absurde règne, et quand j'entends ça de la part du directeur général d'IBM, je suis vraiment déçu. Vous m'excusez, merci pour votre attention.
Je ne peux rien commenter, mais...
Non, je crois, enfin, je vais le faire pour Philippe. Bien sûr, c'est une image. Je veux dire, 1+1 = 2. Hein, c'est comme ça que je le présente en synergie d'équipe. Une équipe synergique, c'est une équipe dans laquelle, si vous tirez tous à la corde, chacun de son côté, on va pas gagner au tir à la corde. Si tout le monde tire en même temps, on va gagner. Si dans une galère romaine, tout le monde navigue, rame à sa cadence, avec son propre rythme, ça nécessite une coordination, c'est extrêmement, extrêmement intéressant, et les synergies d'équipe montrent aujourd'hui partout le résultat extraordinaire du travail en équipe.
Autre question ?
Une dernière question ? Oui, ouais. Monsieur à droite. Voilà.
Bonsoir. J'avais une question concernant les dépôts de brevets. Vous disiez qu'IBM avait fait une quantité incroyable de dépôts de brevets. Est-ce que c'est pas un frein au justement au partage d'innovation, au partage de technologie?
Alors, votre question est excellente. Effectivement, ça peut être un frein puisque ça peut limiter. L'accès à une technologie. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais nous remettons dans le public plusieurs milliers de brevets par an de manière gratuite. C'est-à-dire que ce que nous cherchons à faire, c'est à pousser les gens qui travaillent chez nous à réfléchir, à innover, à trouver. On remet plusieurs milliers de brevets à la disponibilité de tout le monde pour justement éviter de rentrer dans quelque chose dans lequel on ferait le contre-exemple de ce qu'on souhaite faire par ailleurs. Alors il y a à l'évidence des brevets qui ont un caractère particulier d'innovation et surtout de propriété intellectuelle qui ne sont pas forcément donner au grand public, de manière gratuite, mais il y a une partie, j'ai pas le chiffre ce soir, je suis désolé, mais il y a une partie très significative qui est libérée de manière, j'allais dire, gratuite et accessible.
Alors, allez-y. Oui, attendez le micro, peut-être. Merci.
Pour vous approuver, je ne sais plus si l'inventeur de la souris vient de chez IBM, mais l'inventeur de la souris a pris un brevet, mais l'a mis à disposition de tout le monde afin que ça aille plus rapidement et s'étaler aussi plus rapidement.
Monsieur, vous donnez un excellent exemple. Merci.
Monsieur Ed et Monsieur Debouc, on vous remercie grandement.
Merci. Merci bien.